Vous écoutez RTL.
RTL, midi et demi.
Sur RTL,
le journal inattendu, Marie Drucker.
Bonjour, bon samedi à tous, merci d'écouter RTL et le journal inattendu. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter le samedi en direct entre midi et demi et 13h30. Ce succès, nous vous le devons. Et toute l'équipe se joint à moi ce matin pour vous en remercier. Nous allons tâcher évidemment de continuer à vous proposer chaque semaine des choses intéressantes, différentes et inattendues. Et le rédacteur en chef aujourd'hui sur RTL est un journaliste, écrivain, patron de presse, souvent inattendu, et qui signe aujourd'hui un essai sur les riches. Bonjour Jean-Louis Servan-Schreiber.
Bonjour Marie.
Merci d'être en direct avec nous sur RTL. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi les riches ont gagné. C'est le titre de votre ouvrage paru chez Albin Michel. Mais d'abord, vous devez sacrifier au rituel de cette émission. Vous avez déjà annoncé la couleur. Vous m'avez dit mon autoportrait fera 40 secondes. En théorie, je dois vous le rappeler, vous n'en avez que 30. C'est à vous.
Bon, j'exagère. Je suis journaliste, patron de presse et essayiste. J'ai créé ou relancé 14 titres de presse, dont L'Expansion, Psychologie et maintenant Clé Magazine. Pourquoi les riches ont gagné est mon 14e livre. J'avoue que la philosophie m'intéresse plus que l'actualité, mais je trouve la comédie humaine instructive entre tragique et cocasse. J'ai 4 enfants, 8 petits-enfants, 3 chiens et un chat. J'ai la chance d'être marié à Perla depuis 27 ans. Nous faisons tout ensemble et souvent. J'ai écrit ce livre parce que journaliste, j'avais repéré qu'on sait bien peu de choses sur les riches alors qu'ils ont pris une importance centrale dans notre société. J'ai pas été déçu. Mon enquête a été passionnante. J'espère qu'elle intéressera tous mes lecteurs.
En tout cas, elle intéressera les auditeurs de RTL aujourd'hui. Perla, votre épouse, qui est dans ce studio, puisque vous faites tout ensemble.
La preuve.
Qui vous voit et que vous tutoyez.
Voilà, c'est comme ça.
Jean-Louis Servan-Schreiber est avec nous en direct sur RTL jusqu'à 13h30. Le regard que vous portez sur la presse, sur les médias aujourd'hui, votre travail sur les riches, le contexte politique, la conférence de presse de François Hollande, nous allons bien sûr revenir sur toutes ces actualités. Voici les titres du journal.
Le journal inattendu, Marie Drucker sur RTL.
La Côte d'Azur sous la pluie qui reprend de plus belle, le Var en vigilance crue, vigilance orange, glissement de terrain, coulée de boue. Le Conseil général demande le placement des communes sinistrées en état de catastrophe naturelle. Nous serons en direct de Gordio près de Menton dans un instant. Fin d'une semaine compliquée pour François Hollande. Le chef de l'État passe son samedi à Tulle. Il présentera tout à l'heure ses vœux aux Corréziens. Il est entouré d'une nuée de journalistes forcément passionnés par ses vœux et l'avenir de la Corrèze. Nous serons en direct sur place dans un instant sur RTL. La vie privée du chef de l'État qui fait des choux gras, des late shows américains, les humoristes très inspirés par le ménage 3.
Julie Gayet, où est la bibliothèque?
On verra ça dans un instant avec Rémi Sulmont à New York. Deux Français en huitième de finale de l'Open d'Australie, Stéphane Robert, Joe Wilfried Tsonga et la rencontre Nadal, Monfils, nettement à l'avantage de l'Espagnol, quoique Tsonga reprend un peu de terrain. Isabelle Langer, envoyée spéciale de RTL, sera en direct avec nous. Situation économique, peur de l'autre, défiance à l'égard du politique, l'heure est à la morosité générale, comme le montrent deux études de l'Institut Ipsos et du quotidien Le Monde. Pour autant, les Français se disent individuellement confiants pour leur avenir. À votre demande, Jean-Louis Servan-Schreiber, Jean-Baptiste Bourgeon de RTL nous expliquera ce paradoxe apparent. Le temps, bonjour Valérie Quintin.
Bonjour.
Alors il va pleuvoir sans arrêt dans le sud-est, on l'a compris.
Oui, alors les Alpes-Maritimes vont être un petit peu tranquilles, le plus gros est passé hier. En revanche, les pluies orageuses vont s'activer tout l'après-midi, toute la nuit prochaine et même une grande partie de la journée de demain sur le Var, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, en remontant aussi vers le Gard, l'Hérault, l'Ardèche. Ça va impliquer aussi beaucoup de neige en moyenne montagne sur les Alpes. Dès que ces pluies remonteront vers la région Rhône-Alpes, gros risque d'avalanche sur les Alpes du Sud cet après-midi. Et puis à l'opposé, sur la façade ouest, des averses assez fréquentes aussi tout l'après-midi. Entre les deux, donc sur le bassin parisien, le nord, les régions centrales ou encore le nord-est, on peut espérer des éclaircies pas vilaines parfois entre les nuages. Tout cela dans la douceur, avec des températures comprises de 8 degrés à Strasbourg à 17 degrés à Ajaccio, 9 à Lille, 10 à Paris, 11 à Poitiers, 12 à Besançon, 13 à Biarritz, 14 degrés attendus à Clermont-Ferrand et 15 à Perpignan.
Eh bien, vivement une météo plus harmonieuse. Merci beaucoup Valérie Quintin. Si vous voulez adresser des SMS à Jean-Louis Servan-Schreiber pour lui poser des questions, je m'en ferai le porte-parole. Vous le savez, c'est au 64 900, code midi.
Le journal inattendu sur RTL.
Jean-Louis Servan-Schreiber, Marie Drucker.
Réveil dantesque ce matin dans les Alpes-Maritimes. Les intempéries de ces dernières 48 heures ont provoqué des glissements de terrain et des coulées de boue. La pluie qui continue de tomber n'arrange pas les choses. Bonjour Laure Ferrarini.
Bonjour.
Vous êtes du côté de Menton pour RTL à Gordio, précisément l'une des communes les plus touchées ce matin.
Oui, effectivement, ici les habitants sont très inquiets. Ils constatent depuis hier les dégâts considérables autour de leur village. Alors beaucoup se sont rassemblés dans le centre du village, ça les rassure. Ils redoutent les jours à venir, alors ils préfèrent se regrouper, s'unir pour être solidaires. Dominique, qui vit dans le haut du village, me confiait tout à l'heure qu'elle vivait dans l'angoisse, qu'elle avait peur. Elle avait peur de voir sa maison s'écrouler, puisque hier, devant elle, un homme s'est retrouvé coincé dans sa voiture. Il allait se retrouver complètement coincé entre les pierres qui allaient s'écrouler dans la vallée. Et finalement, il y a eu beaucoup de chance, mais c'est vrai qu'elle me confiait que depuis hier, tout le monde vit dans l'angoisse ici. On ne sait pas à quoi s'attendre. Et effectivement, depuis plusieurs heures déjà, la pluie s'accentue. Il pleut de plus en plus fort et donc de nouveaux éboulements de terrain. Les arbres qui pourraient à nouveau tomber sur la route sont à prévoir. Alors ils attendent et en plus, ils se disent qu'une seule route a été libérée aujourd'hui sur les trois qui mènent à leur village. Ils pourraient à nouveau se retrouver coupés du monde et les secours mettraient du temps à arriver. Donc ici, on vit dans l'angoisse, on attend de voir la météo, on vit, on attend dans la peur et on se demande qu'est-ce qui va se passer dans les heures qui arrivent.
Et ben on suivra ça évidemment attentivement sur RTL et notamment avec vous, Laure Ferrarini. Merci beaucoup. Le Conseil général des Alpes-Maritimes demande le placement des communes sinistrées en état de catastrophe naturelle et j'ajoute que le Var est en vigilance orange crue. On marque une pause et nous prendrons la direction de Tulle où François Hollande présente ses vœux aux Corréziens cet après-midi. Tiens, il n'y a jamais eu autant de journalistes, comme c'est bizarre.
Le journal inattendu de Jean-Louis Servan-Schreiber avec Marie Drucker sur RTL.
Un peu plus d'une semaine après la révélation de sa liaison supposée avec l'actrice Julie Gayet, François Hollande est depuis ce matin à Tulle, venu présenter tout à l'heure ses vœux aux Corréziens. Et ce matin, inauguration d'un poste de secours à Vigeois. Et bien entendu, c'est cette inauguration qui passionne les dizaines de journalistes présents sur place, Philippe de Maria.
Oui, 90 journalistes, dont des Britanniques, pris d'une passion soudaine pour le président français. Et quant à lui poser une question directement, eh bien c'est une autre affaire. François Hollande inaugure une gendarmerie, puis un centre de secours. Nous pouvons voir le président, mais pas l'approcher. La sécurité maintient tout le monde à distance. Pas de bain de foule pour le président, seulement un discours qui se veut détendu. Il blague même sur l'anniversaire de Madame le maire, qui tombe aujourd'hui.
C'est un événement important que celui d'aujourd'hui, non pas parce que vous recevez le président de la République, mais parce que c'est votre anniversaire.
Vigeois, c'est un retour aux sources conseillé pour les périodes agitées. Il y fut élu en 2008.
Je reviens ici à Vigeois, dans ce canton auquel je suis humainement attaché, où dans les quelques années qui m'ont été données pour exercer mon mandat, j'ai fait en sorte que nous puissions lui donner un renouveau.
Et cet après-midi, le président Hollande continue sa mise au vert en Corrèze avec la présentation des vœux aux Corréziens.
Philippe de Maria à Tulle pour RTL. Jean-Louis Servan-Schreiber, ça vous passionne, j'imagine, aussi les vœux de François Hollande aux Corréziens, non?
Vous savez, de toute façon, Atlas, pour reprendre des forces, allait toucher la Terre. Donc c'est tout à fait cohérent pour lui, probablement, d'aller toucher la Terre à Tulle pour se refaire un petit peu.
Avec une semaine de recul, comment le patron de presse que vous êtes analyse-t-il la couverture médiatique de cette affaire privée devenue publique?
Comme d'habitude.
C'est-à-dire
que l'essentiel qui est bien sûr ces annonces tout à fait importantes qui ont été faites
mardi,
au moment de la conférence de presse, heureusement n'ont pas été complètement occultées par les affaires un peu plus frivoles qui l'ont entouré. Mais maintenant qu'on en a beaucoup parlé, je parle des mesures qui sont annoncées et aussi tout le monde a pu faire son commentaire, tous les journalistes ont pu faire leur commentaire. Ben, nous sommes au week-end et c'est normal que voilà, ça remonte, le côté un peu frivole remonte.
Vous avez remarqué que la presse féminine cette semaine est beaucoup plus, je ne sais pas quel est le terme, mais en tout cas beaucoup plus...
Mesurée
Non, j'allais dire, toute la presse féminine, que ce soit Elle, Gala, Gratia, tout le monde fait la couverture sur cette affaire, avec les femmes en couverture, que ce soit Julie Gayet ou Valérie Trierweiler, et la presse traditionnelle contourne le sujet.
Il faut dire que ce sont deux cover girls d'une certaine manière. Elles ont le look qu'il faut et ça fait de très belles couvertures. Comment résister? Et en plus de ça, à partir du moment où la digue a lâché et où il n'y a plus de secret, c'est le moment ou jamais, médiatiquement, d'essayer de saisir les lecteurs. Évidemment, l'effet, c'est que c'est un peu répétitif, mais ça, c'est comme d'habitude.
L'attitude de François Hollande, ce matin, un sondage BVA montre que 75% des Français estiment qu'il a eu raison de ne pas répondre aux questions mardi lors de sa conférence de presse et considère à 62% que c'est une affaire très privée qui ne concerne que lui. Vous êtes d'accord?
Oh oui, je suis toujours impressionné par le bon sens des Français. Et c'est quelque chose dans lequel on peut faire confiance.
Toujours est-il que les médias étrangers se sont emparés, vous l'avez remarqué, Jean-Louis Servan-Schreiber, de cette affaire, à commencer par les Américains. Chaque soir, ce que l'on appelle les late shows, ces émissions satiriques présentées par des humoristes stars, consacrent des rubriques longues, très longues, à François Hollande et ses femmes. Ça va parfois très loin. Bonjour Rémi Sulmont.
Bonjour Marie.
Vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. Les Américains raffolent de cette histoire.
Oui, pour les Américains, cela dépasse l'entendement. Même les présentateurs les plus sérieux ne peuvent pas se retenir.
Elite French.
Autant vous dire que les humoristes américains ne pouvaient pas rêver mieux pour leur sketch qu'ils ont truffé de mots de français.
Bonjour madame.
Car visiblement, c'est plus drôle. Enfin, pour eux.
Julie Gaillet, où est la bibliothèque?
Où est la bibliothèque? Faut que je vous explique, c'est ce qu'ont appris dans un manuel scolaire les Américains qui ont fait quelques rares heures de français au lycée, comme Stephen Colbert, visiblement, animateur de l'un de ses one-man shows nocturnes.
Journaliste Valérie Trierweiler.
Valérie Trierweiler est devenue la première dame après que Hollande soit élu, même s'ils ne se sont jamais mariés. Apparemment, la première dame de France, c'est la dernière personne avec laquelle le président couche. Donc, si on réfléchit, en 98, notre première dame aurait été Monica Lewinsky.
La grande presse, elle, a tenté de donner une profondeur historique à ce soap opéra exhumant leur bibliothèque. Les journalistes américains ont raconté le président Félix Faure, mort d'apoplexie avec sa maîtresse. Mais la vraie question d'actualité pour l'Amérique, c'est celle-ci.
Who is the First Lady?
Qui est la First Lady? Qui va venir au dîner d'État du 11 février? Car le nom de Valérie Trierweiler figure sur l'invitation du couple Obama. Le président chinois Roux l'ayant fait avant lui, Hollande ne créera pas de précédent en venant seul. Autre option, il se marie, comme l'avait fait le président mexicain Fox, qui a épousé sa maîtresse d'alors, juste avant sa visite d'État à Washington. Et si Hollande n'arrive pas à mettre fin à ce ménage à trois?
Imaginez les gens à la Maison Blanche qui vont organiser le dîner.
Peut-être qu'à la place du président, ils peuvent mettre un banc.
Voilà, et ça rigole encore. Ça a été comme ça toute la semaine, ici aux États-Unis.
Eh oui, merci Rémi Sulmont, reportage pour RTL depuis New York. Jean-Louis Servan-Schreiber, ça vous amuse, ça vous choque? Les Américains vont quand même beaucoup plus loin que nous. Hein.
C'est pas ça, c'est qu'ils sont très frustrés de ce genre d'histoire, parce qu'aux États-Unis, quand il se passe quelque chose de beaucoup moins patent, de beaucoup moins grave, ça a des conséquences politiques immédiates. C'est intolérable pour les Américains, l'adultère officiel en quelque sorte. Et évidemment que dans une conférence de presse, aux États-Unis, on ne laisserait pas cette réponse qu'il a faite avec dignité d'ailleurs, arrêter le débat. Il serait de nouveau assailli de dizaines de questions, parce que pour eux, un président qui fait ça, c'est comme si il avait fait un suicide politique. Le fait que ça ne soit pas du tout le cas en France, les étonne, et vraiment ces Français, une fois de plus, ils sont bizarres, ils sont légers, mais ça les amuse bien sûr.
Et nous-mêmes journalistes avons été critiqués notamment par nos confrères britanniques. Alors là, on est encore dans une autre culture, oui. Puisque là, on dit tout, on montre tout, même quand on n'est pas sûr des informations. Là, il n'y a absolument aucune limite. Ils ont trouvé les journalistes français extrêmement frileux lors de la conférence de presse de mardi dernier de François Hollande. Ils estiment que ce n'est pas parce que le président dit « je ne répondrai pas à des questions sur la vie privée » qu'il ne fallait pas en poser davantage. Vous êtes d'accord?
C'est la France. Et en France, la conférence de presse n'a absolument pas le même statut que dans les pays anglo-saxons, où on se livre pieds et poings liés aux journalistes et on est sommé de répondre. En France, c'est ritualisé parce qu'en réalité, c'est devenu l'exercice politique central. Il n'y a plus l'équivalent avec les assemblées. Il n'y a rien de solennel dans le débat à l'Assemblée nationale ou dans les instances des élus. Ça se passe en direct par le truchement des journalistes.
Jean-Louis Servan-Schreiber, vous qui dites... comme une majorité de Français, on l'a vu dans le sondage tout à l'heure, que c'est une affaire privée qui ne regarde que le président de la République.
Faut pas être naïf quand même.
Non, mais j'allais dire, pour autant, vous ne pensez pas que ça, en creux d'ailleurs, ça dessine une personnalité à laquelle on ne s'attendait peut-être pas et que les électeurs n'avaient peut-être pas envisagé. Ça dit des choses quand même.
Ah non, ça c'est absolument une surprise parce qu'il n'avait pas le profil.
Et le profil de quoi?
Le profil un peu léger, comme ça, de quelqu'un qui sort la nuit, qui passe, qui découche, en gros, et qui donc se permet d'être lui-même, passer les heures de travail. J'ai l'impression que pour les Français, ça le rend un peu sympathique.
Et est-ce que les journalistes, est-ce qu'on n'est pas tous devenus fous depuis une semaine à chercher la moindre petite information? Alors depuis ce matin, on se demande si Valérie Trierweiler va quitter l'hôpital là dans les heures qui viennent. Est-ce qu'elle va aller à la Lanterne ou ailleurs? Est-ce que
à la Lanterne.
Bon allez, la réclame est dans un instant. On rejoint Isabelle Langer à Melbourne. Il y a deux Français en huitième de finale du tournoi de tennis.
Le journal inattendu de Jean-Louis Servan-Schreiber avec Marie Drucker sur RTL.
12h50 sur RTL, surface rapide et expéditive. Raphaël Nadal vient de se défaire vite fait bien fait de Gaël Monfils, Isabelle Langer à Melbourne.
Ah oui, Raphaël Nadal a été un véritable rouleau compresseur. Il lui a fallu 2h04 pour se défaire de Gaël Monfils en 3-7, 6-1, 6-2, 6-3. Le Parisien n'a rien pu faire aujourd'hui contre le numéro 1 mondial. Très impressionnant techniquement, mais aussi physiquement. Écoutez, depuis le début du tournoi, Nadal n'a laissé que 18 jeux à ses adversaires en 3 matchs. Ça vous donne un petit peu la mesure de son exploit.
En revanche, deux Français sont tout de même qualifiés pour les huitièmes, Isabelle.
Oui, à 33 ans, Stéphane Robert, 119e joueur mondial, en effet validé pour la première fois de sa carrière son billet pour la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem. Il affrontera lundi le Britannique Andy Murray. De son côté, Joe Wilfried Tsonga s'est défait de Gilles Simon en 3 manches, 7-6, 6-4, 6-2. Troisième victoire en 3-7 dans cet Open d'Australie.
Ouais, pour le moment, c'est l'idéal. Chaque jour suffit sa peine. Il va falloir que je récupère bien. Et puis, le premier match va être contre Roger Federer, qui est un client très très sérieux. Il va falloir que je sois au top de ma forme dans deux jours si je veux l'emporter.
Comment vous êtes trouvé vous ce soir là?
Je me suis trouvé plutôt bien, un peu tendu sur le premier set. Puis le fait d'avoir gagné ce premier set, c'est vrai que ça m'a quand même relâché. Et puis ça m'a permis de jouer le tennis que je joue depuis un petit moment et qui est très bon.
Très bon, donc, c'est ce qu'il pense. Et c'est ce qu'il faudra surtout être lundi pour battre Roger Federer. En revanche, c'est terminé pour Benoît Paire et Alizé Cornet, battu par Maria Sharapova. C'est la cinquième année consécutive en Australie qu'il n'y a pas de Française en huitième de finale.
Merci Isabelle Langer. En plus, il fait moins chaud. Hein. Je crois que vous avez perdu 20 degrés en 24 heures.
Voilà, c'est ça. Mais c'est Melbourne.
C'est ça. On vous retrouve à 13h dans le rappel des titres. Merci.
Le journal inattendu sur RTL.
Optimisme individuel versus déprime nationale. Comment peut-on, nous, Français, être à la fois optimiste, voire heureux, mais c'est un autre sujet, sur le plan personnel, et très inquiet et morose quand on en vient à parler de la situation et de l'avenir de notre pays? Vous avez été interpellé, Jean-Louis Servan-Schreiber, par deux enquêtes, l'une de l'Institut Ipsos, l'autre réalisée par le Centre de Recherche Politique de Sciences Po. Deux enquêtes apparemment contradictoires, mais dont le fond commun en dit long sur nous, Jean-Baptiste Bourgeon.
Oui, les Français sont les champions de l'optimisme personnel. 9 sur 10 pensent que 2014 sera une meilleure année que 2013. Dans un contexte économique et social difficile, ce sont leurs proches qui leur permettent de garder le sourire.
Moi, mon énergie la puise ouais, dans mes amis autour de moi, dans ma famille aussi. Des relations vraiment très proches.
L'optimisme, il est dans le cadre de la famille. La famille, c'est un rempart par rapport à une morosité ambiante.
Quand ça va pas, c'est les gens autour de nous qui nous redonnent la pêche. Il faut avancer et faire en sorte que ce qui nous entoure soit plus important.
Pourtant, 3 Français sur 4 ont des craintes sur l'avenir du pays et celui de leurs enfants. Pour le psychologue Philippe Gabillier, plus les Français s'éloignent du monde qui les entoure et plus ils perdent confiance.
Ils se replient sur leur sphère locale. Je suis plutôt optimiste pour mon club de foot, dont je suis l'un des élus. Je suis plutôt optimiste pour le développement de l'association dans laquelle je donne beaucoup. C'est ce qui se passe dans l'arrière-cour de mon jardin qui fait que je vais avoir véritablement confiance. Ce qui nous rend si pessimistes sur le collectif, c'est qu'on se dit, non seulement on n'a pas confiance, mais en plus, on n'a plus la main. Et on a cette espèce de réflexe permanent d'un individualiste qui sait qu'il n'y a que le collectif qui pourra le sauver, mais qui ne croit plus du tout dans le collectif global et qui cherche en permanence des collectifs locaux.
Des inquiétudes sur l'avenir de son pays alors qu'on est plutôt à l'aise dans ses baskets. Un paradoxe bien français pour Pascal Perrino, chercheur à Sciences Po.
C'est une situation un peu à part en Europe. Dans bien d'autres pays, même en difficulté, les anticipations sont meilleures. Il y a bien une dimension française de ce pessimisme collectif. Il n'y a jamais eu beaucoup de corps intermédiaires entre le citoyen en bas, dans son quartier, son voisinage, sa famille et le monde d'en haut. Et en période de crise, cela s'accentue. Donc en bas, le citoyen a l'impression d'être abandonné sur le bord du chemin. Le monde d'en haut lui semble étranger et même maintenant lui semble hostile.
Et pour que l'optimisme collectif revienne, spécialistes et citoyens sont tous d'accord. Il faudrait que les médias et les élites nous parlent un peu plus de réussite que de problèmes.
Jean-Baptiste Bourgeon, Jean-Louis Servan-Schreiber, vous pensez que les médias ont une responsabilité aussi dans la morosité globale ?
J'allais vous le dire.
Ah, voilà.
Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence ? L'individu, chacun d'entre nous, est compétent en ce qui concerne sa propre vie. Il est informé et en même plus de ça, il a un pouvoir de décision. Donc, il se fait confiance d'une manière qui est d'ailleurs très intéressante à constater. Les Français, on pourrait dire, ont fortement le moral. Et alors, à l'opposé, pour ce qui concerne la société, ils ne sont pas informés, ils sont informés que par nous. Et en fait, il y a une responsabilité médiatique, à mon avis, qui est massive. C'est qu'à force de dire que ça va mal, on finit par nous croire. Et en même temps, il n'y a aucun contre-feu. Et ça, je crois que c'est aussi un biais français. Il y a une espèce de pessimisme, de pessimisation des événements qui est un peu dans le caractère français dès qu'il s'agit d'autres choses. Mais pour soi-même, heureusement, je préfère ça que l'inverse.
Mais vous-même, Jean-Louis Servan-Schreiber, êtes un peu plus optimiste désormais que par le passé sur notre société. On le retrouve dans vos livres, notamment « Aimer quand même », entre parenthèses, le 21e siècle. Vous êtes plus optimiste que dans le précédent qui s'intitulait « Trop vite ».
C'est pas tout à fait la même chose, parce que trop vite, ça a à voir avec la manière dont nous vivons nous-mêmes et notre rythme de vie que nous avons laissé un peu glisser vers la vitesse. Je suis optimiste, on pourra en reparler à propos du livre en cours, Bien sûr. Je suis optimiste par tempérament et parce que très profondément, j'ai confiance dans l'évolution de la société humaine, je crois qu'elle va dans le bon sens.
Vous aviez lancé Psychologie Magazine en 1997. C'était tout à fait novateur, car si aujourd'hui on parle beaucoup de psy, de zen, de bien-être, d'harmonie, etc., ce n'était pas encore le cas à l'époque. Qu'aviez-vous alors senti, pressenti des temps à venir et de nous-mêmes ?
Qu'il y avait un repli sur soi, que Psychologie Magazine, ça correspondait au fait qu'il est temps de s'occuper de soi-même et de son environnement le plus proche. Et justement, de s'écarter un petit peu des médias qui nous projettent dans un monde trop compliqué et souvent, on a l'impression, hostile. Donc, c'était les années du retour sur soi et du droit au bonheur. Je peux être heureux si je m'occupe et que les miens s'occupent de notre sphère privée, si vous voulez.
Le journal inattendu jusqu'à 13h30 avec Jean-Louis Servan-Schreiber. Dans un instant, le rappel des titres. Et si vous voulez poser des questions à notre invité, faites-le au 64 900 code MIDI par SMS. Je m'en ferai volontiers porte-parole. Vous avez des questions à poser, notamment sur les riches. Qu'est-ce que c'est qu'être riche aujourd'hui ? Jean-Louis Servan-Schreiber signe un essai chez Albin Michel qui s'intitule « Pourquoi les riches ont gagné ?» À tout de suite. Merci d'écouter RTL, il est 13h.
Journal inattendu sur RTL.
13h, les titres de l'actualité.
Jean-Louis Servan-Schreiber, Marie Drucker.
Glissement de terrain, coulée de boue depuis jeudi soir. La Côte d'Azur est touchée par les intempéries. Le Conseil général des Alpes-Maritimes demande le classement des communes sinistrées en état de catastrophe naturelle. Laure Ferrarini, vous êtes près de Menton où la pluie tombe sans discontinuer.
Oui, il pleut même de plus en plus fort sur le département, à Menton, donc où je me trouve. Les habitants affirment que cela commence à ressembler à ce qui s'est passé hier, avant que les arbres ne tombent, que les éboulements de chauffée ne se fassent à différents endroits autour de la ville et dans les villages voisins. Alors le niveau de l'Argent à Val et du Capot devrait donc monter, puisque les précipitations devraient être de plus en plus importantes d'ici le reste de la journée. Des premiers débordements sont à prévoir. Alors ici, vigilance et rigueur sont de marque ici dans la région.
Laure Ferrarini pour RTL.
François Hollande à Tulle, le chef de l'État a inauguré ce matin un poste de secours. C'est peut-être une bonne idée. Avant de présenter ses vœux en début d'après-midi aux Corréziens. Premier déplacement officiel du président de la République depuis les révélations, il y a une semaine, de la relation présumée avec l'actrice Julie Gayet. Pas de blind foule au programme, Philippe de Maria.
Oui, pas de déambulation libre avec les habitants de Vigeois. Seulement 250 mètres entre la gendarmerie et le centre de secours inauguré. Eh bien, 250 mètres fait en voiture, en convoi présidentiel. Mais ça n'empêche pas les Corréziens de soutenir le président dans cette période agitée.
Sa vie privée, bon, c'est un homme, mais sa vie privée ne me regarde pas. Quand même, ça déstabilise à mon avis.
Déstabiliser le président, eh bien, pas vraiment. Après un discours en hommage au dévouement des pompiers, il serre les mains des élus corréziens.
Monsieur le maire, comment ça va ?
Monsieur le président.
Ça va bien ?
Ça va, vous aussi. Entre les Bonne année.
Cet après-midi, ses voeux seront exprimés à l'ensemble des Corréziens avec un discours attendu sur la décentralisation.
Et voilà, bonne année. La mobilisation citoyenne des habitants de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis contre les trafics de drogue. Un rassemblement est prévu cet après-midi devant la mairie pour demander la présence de policiers nuit et jour dans les halls et cages d'escalier des immeubles. Jacques, un habitant de la ville au micro RTL de Brice du Génie.
C'est le ras-le-bol, oui, le ras-le-bol des présences. Voilà, Manuel Valls a déclaré ce quartier zone prioritaire. On n'a pas vu, donc on s'installe le soir ou le samedi au pied des immeubles. On discute avec les gens, on fait signer des pétitions, on occupe le terrain. Puis les acheteurs, on les voit moins, quoi. Hein, je crois que c'est ça l'essentiel. Il faudrait qu'on puisse faire ça partout en même temps, quoi.
Accident de la route mortel cette nuit dans les Deux-Sèvres. Trois jeunes de 19 ans sont morts après une collision frontale de leur voiture avec une camionnette qui circulait en sens inverse. Son conducteur n'a pas été blessé. En voilà un qui, probablement aujourd'hui, croit à sa chance.
Deux Français en huitième de finale de l'Open d'Australie. Joe Wilfried Tsonga a rejoint Stéphane Robert après sa victoire en 3-7 face à son compatriote Gilles Simon. En revanche, Isabelle Langer, il n'y en aura pas de troisième donc.
Non, Gaël, mon fils a été éliminé en trois manches, assez facile d'ailleurs pour Rafael Nadal. Le numéro 1 mondial l'emporte 6-1, 6-2, 6-3. C'était un match un peu à sens unique.
Merci Isabelle, en direct de Melbourne pour RTL. Et puis du football, 21e journée de Ligue 1. Hier soir, Saint-Etienne s'est imposé 2-0 face à Lille. À 17h, Marseille reçoit Valenciennes. 5 autres rencontres à 20h à suivre dans le multiplex RTL. L'équipe avec Christian Olivier et Pascal Pro. Un mot du temps, s'il vous plaît, Jean-Louis Servan-Schreiber.
La météo sera encore très médiocre dans le sud-est cet après-midi avec beaucoup de pluie et beaucoup de neige en montagne. Ailleurs, les averses fréquentes, au 6 de la Bretagne jusqu'à l'Aquitaine et quelques éclaircies pour le reste du pays. Température très douce, elles iront de 8 à 17. Il fera 9 degrés à Lille, 10 à Paris, 11 à Bordeaux, 13 à Lyon et 14 à Marseille.
Le journal inattendu sur RTL.
Jean-Louis Servan-Schreiber, Marie Drucker.
Jean-Louis Servan-Schreiber, pourquoi les riches ont gagné? C'est le titre de votre essai qui vient de paraître chez Albin Michel. C'est d'ailleurs malin, évidemment, car quand on dit riche, c'est comme quand on dit sexe, ça fait vendre. Vous auriez intitulé votre livre « La France des inégalités », c'était moins un vendeur?
J'y avais pensé, je pensais que le problème des inégalités était de plus en plus important. D'ailleurs, c'est ce que vient de confirmer le président Obama dans un discours. Alors, l'enquête a montré deux choses. La première, c'est que il est moins important en France que dans la plupart des autres pays, à part les Scandinaves. Donc, je me suis dit que pour des Français, c'était difficile de l'expliquer, sauf si on mettait ça dans un contexte d'accroissement considérable de la richesse depuis le début de ce siècle, qui a augmenté de 70% à l'échelon mondial. Et là-dedans, bien sûr, les riches ont gagné.
Qu'est-ce qu'être riche? Nous vous avons demandé votre point de vue à vous. Écoutez ce recueilli par Lauriane Dervaux pour RTL.
Riche, ça veut dire quoi?
C'est très relatif.
Pour moi, c'est une autre planète.
Oui, complètement au-dessus du commun des mortels.
Un peu l'excès.
Je ne les méprise pas, mais je les envie pas du tout.
Je pense que tout le monde peut le devenir, mais il y a très peu de chances de devenir quand on ne l'est pas au début.
Il y a des gens, on ne peut pas imaginer ni leur salaire, ni leur train de vie.
Moi, je vois plutôt des personnages, des étrangers, des Russes, des gens des Émirats.
En France, on ne doit pas montrer qu'on est riche.
C'est vrai qu'en France, on cache ses moyens.
Donc, c'est un beau tabou.
Aujourd'hui, les riches sont les patrons, tout simplement.
Des gens qui travaillent à leur compte. C'est...
La crise, est-ce que ça a changé quelque chose pour ces gens-là? Ils sont de plus en plus riches, oui.
Ils ont bien placé leur argent. Il y a plein de... J'aime pas ce mot de combine, mais dans le contexte actuel...
Les entreprises, leur mot fait plus écouter qu'avant.
Oui, ils ont une bonne influence sur la gouvernance.
Bien sûr, les gens qui ont de l'argent ont toujours le pouvoir, bien sûr.
Les riches s'enrichissent, les pauvres restent pauvres. Je pense que c'est inhérent au capitalisme.
Jean-Louis Servan-Schreiber, il y a un peu de tout ça dans votre livre.
Il y a un peu de tout ça, et ça m'intéresse de voir, évidemment, je sais qu'un radio-trottoir, on peut l'orienter un peu comme on veut, mais je fais confiance à l'objectivité de RTL. Il ressort de ça que, effectivement, les Français ne détestent pas les riches. Et au fond, ça leur est un peu indifférent. Ils font des commentaires, mais il n'y a rien d'agressif.
Donc, quand on dit, aux États-Unis, quand on voit passer quelqu'un qui a de l'argent, on dit « Ah, c'est formidable, elle est belle sa voiture », et en France, on a envie de la rayer. Le président Nicolas Sarkozy, en son temps, faisait la comparaison sans arrêt entre les deux pays, donc on se trompe.
Oui, je pense qu'on se trompe. Bon, là, encore une fois, je fais confiance aux sondages, non pas radio-trottoir, mais les sondages statistiques, qui montrent, et en 2013 et en 2012, que le sentiment dominant aux deux tiers, c'est l'indifférence, et que dans le tiers qui reste, c'est moitié de l'admiration, moitié de l'agacement.
Mais donc, ça rejoint, si c'est l'indifférence qui domine, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur l'optimisme et le bonheur, c'est-à-dire que pour soi-même, on est content de ce qu'on a.
Absolument, et il n'y a pas... Vous savez, dans les pays scandinaves qui sont plus égalitaires que la France, les riches sont beaucoup moins bien considérés. Il y a plus de jalousie, c'est assez connu. Donc finalement, dans ce domaine, comme peut-être dans le domaine de la vie affective des présidents, les Français sont assez tolérants, c'est un bon pays.
Combien de millionnaires dans le monde et en France ?
Alors, des millionnaires en dollars, puisque c'est, pour avoir une statistique internationale, on reste dans les dollars. Un millionnaire en dollars, ça fait donc 750 000 euros à peu près. Il y en a 12 millions. Comme si c'était toute la Belgique qui était peuplée de millionnaires, vous voyez. C'est pas encore en voie de se faire. Mais il y en a 500 000 en France.
C'est donc, beaucoup, c'est peu?
Oui, c'est beaucoup. Par rapport à ce que ça a été, et ça croît chaque année. C'est ce que les Américains appellent les millionnaires next door. Ceux qui sont, peuvent être votre voisin. Mais vous savez, les riches sont autour de 1% d'une population dans un pays. En France, avec 7500 euros par mois de salaire, vous êtes dans le 1% des mieux payés. Donc ce n'est pas des gros riches, ça. Ce n'est pas des gens qui ont un énorme patrimoine.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, parce qu'on peut être riche sans être millionnaire.
On peut être riche simplement du fait qu'on a une très belle maison, deux cafés qui marchent bien, et pour autant, on ne vit pas comme un nabab.
Les riches, vous dites pourquoi les riches ont gagné, c'est comme dire les pauvres, les riches comme les pauvres, ça ne peut pas être une catégorie en soi de population.
Bon, c'est parce que c'est un mot qui est convenu pour désigner une catégorie de la population. D'ailleurs, quand on dit les riches, tout le monde se met à parler et a des choses à dire. Mais vous avez tout à fait raison. C'est ce qu'on appelle un mot valise. À l'intérieur de la catégorie des riches, prenons le millionnaire de base qui peut être un chirurgien dentiste. Et puis, il est déjà dans les riches. Et puis, au sommet, vous avez les super riches, les hyper riches qui sont Warren Buffett, les Bill Gates. Et la différence entre notre chirurgien dentiste et Bill Gates est de 1 à 60 000 en patrimoine. Donc, c'est complètement éclaté, voyez-vous. Alors, évidemment, il y a très, très, très peu de milliardaires, de vrais milliardaires, mais c'est une population incroyablement disséminée.
Pourquoi les riches ont gagné? On continue d'en parler après la pause dans le journal inattendu de Jean-Louis Servan-Schreiber jusqu'à 13h30 en direct sur RTL. À tout de suite.
Le journal inattendu de Jean-Louis Servan-Schreiber avec Marie Drucker sur RTL.
Jean-Louis Servan-Schreiber qui signe un essai, Pourquoi les riches ont gagné, c'est chez Albin Michel. On entendait tout à l'heure dans le micro-trottoir un monsieur dire « Oh, il y a peu de chances de devenir riche quand on ne l'est pas depuis le début ». Jean-Louis Servan-Schreiber, qui sont les riches de France? Sont-ce des héritiers? Sont-ce des chefs d'entreprise qui sont devenus riches par eux-mêmes?
Alors, il y a beaucoup maintenant de gros salaires. Parce qu'à la tête des grosses entreprises qui se sont développées sur le plan mondial, bien entendu, les majors français sont des gens dont pour lesquels la France, que ce soit L'Oréal, que ce soit Renault, la France est un des petits marchés. Il est substantiel, mais il n'est pas décisif. Donc ils sont à l'échelle mondiale, et les salaires sont à l'échelle mondiale. Donc déjà, il y a les très gros salariés qui dirigent les grandes entreprises. Ensuite, vous avez pas mal de sportifs. On en parle énormément. C'est pas quantitativement énorme, mais enfin, ça élargit le spectre. Et vous avez, il y a un phénomène. Quand un patron est très très bien payé dans une entreprise et qu'il est tout le temps en réunion avec ses collaborateurs, il sait que ses collaborateurs vont savoir vaguement qu'il gagne 15 fois plus qu'eux. Alors, il a tendance à les augmenter. Et en fait, petit à petit, les 7500 euros qui font qu'on est dans le 1%, ça s'est pas mal répandu dans les grandes entreprises du fait de la montée de la richesse générale.
Quand vous écrivez que les héros d'aujourd'hui ne sont ni politiques, ni militaires, ni religieux, ni de grands savants, qu'ils sont sportifs, vous le mentionnez, acteurs, artistes, entrepreneurs à succès, au fond, quelle conclusion en tirez-vous ?
Eh bien, que la société a profondément changé depuis le 19e et le début du 20e siècle, que, par exemple, la disparition du militaire comme une référence, puisqu'il ne se promène même plus en uniforme. Avant, on mettait ses galons pour plaire aux dames. C'est un vrai changement de société, et maintenant, au fond, c'est le règne de l'argent. Ce qui domine, heureusement, dans un pays en paix, s'il y a moins de militaires, c'est parce qu'aussi il y a moins de périls. Ce qui domine, c'est incontestablement ce qui occupe le dessus du panier, l'actualité, et ça, ce sont de plus en plus les gens qui ont pas mal d'argent.
Jean-Louis Servan-Schreiber, il y a un paradoxe que les auditeurs de RTL ont aussi sans doute du mal à comprendre. Comment les riches continuent-ils à s'enrichir alors que l'on ne parle que de crise mondiale et nationale ?
Non, il n'y a pas de crise mondiale. Ça, c'est une erreur. La tendance mondiale, il y a eu une crise que j'ai tendance à appeler sur le plan historique un spasme. C'est-à-dire qu'il y a eu un ralentissement de la croissance. Il n'y a pas eu de croissance négative dans les pays comme la Chine, comme l'Inde, comme le Brésil. Il y a eu un ralentissement. Et puis, c'est en train de
repartir.
Oui,
mais des crises sociales très profondes. À partir de novembre 2008, les États-Unis, les subprimes, les gens qui se retrouvaient à la rue.
C'est cette crise
quotidienne.
Bien sûr, mais ça, ce que sur le plan individuel, des inégalités, en particulier aux États-Unis, font qu'il y a eu des gens qui ont extraordinairement pâti de ce qui s'était passé. Mais pour autant, si vous parlez, vous ne pouvez pas parler de crise mondiale. Mmh. La croissance mondiale est un fait qui se maintient, avec des hauts et des bas, mais enfin, imperturbablement. Et si nous continuons à être en paix, le monde militaire, si nous continuons à être en paix, je pense qu'il n'y a aucune raison que ça change. Alors, en France, on n'est pas dans cette situation parce qu'il y a stagnation. Parce que l'Europe autour de nous est également pas mal en stagnation. Mais l'Europe, c'est 8% de la population mondiale. Donc, le reste du monde qui est en train de se développer très très fort va nous entraîner de nouveau. Ça prendra encore 2, 3, 4 ans. Mais c'est très peu de choses à l'échelle d'un siècle.
On le dit régulièrement, chiffres à l'appui, des articles, des palmarès sortent régulièrement là-dessus et analyse qui apparaît aux yeux des Français comme un paradoxe insupportable. Les riches sont de plus en plus riches. Ce que vous expliquez, vous, Jean-Louis Servan-Schreiber, c'est qu'ils sont surtout de plus en plus dominateurs.
Alors, ils ne sont pas dominateurs en tant que corps constitué, si je puis dire, parce que c'est quand même des individus. Ils ont de plus en plus de puissance collectivement. On vient d'assister à ça le 14 janvier. Qu'est-ce que fait François Hollande ? Il dit, il faut faire des emplois. Nous n'avons plus, nous l'État, assez d'argent pour faire des emplois assistés ou de services publics. Ça ne fait pas l'affaire par rapport aux 3 millions de chômeurs. Donc je me tourne vers ceux qui fabriquent des emplois, c'est-à-dire les entreprises, c'est-à-dire ceux qui ont la puissance de l'argent. Donc ce compromis historique, il est structurel, il est normal maintenant dans une société comme la nôtre. Et la seule chose que l'on puisse reprocher à François Hollande, c'est peut-être d'avoir attendu un petit peu longtemps avant de le réaliser et de le faire accepter à ses amis politiques.
Un président de la République ne peut pas se mettre les riches à dos.
Non, il ne peut pas. Il peut les engueuler pendant la campagne. Il peut dire « je n'aime pas les riches », mais les riches ne vont pas lui en vouloir parce qu'ils savent que c'est rituel pour se faire élire. Une fois qu'il est élu, lui a un peu de pouvoir, les riches ont aussi du pouvoir, mais ils vont être obligés de faire des compromis.
Votre analyse, justement, je voudrais qu'on prolonge un peu sur ce tournant social-démocrate de François Hollande. Bon, dans la lignée de Jacques Delors, il l'a toujours été, hein, finalement. En même temps, il ne veut pas apparaître comme un libéral. La social-démocratie porte un fond de libéralisme en elle, hein, pourtant, mais tout juste concède-t-il le terme de libéral social ? On est dans des questions de sémantique, c'est important ?
C'est très français. C'est très français. Ça fait très longtemps que nous sommes une social-démocratie, depuis les 30 glorieuses, depuis l'institution de la sécurité sociale, des indemnités chômage, de tout ce qui fait que cette société est très stable. Vous savez qu'un tiers des revenus des Français en moyenne vient de redistribution sous ces différentes formes. Donc c'est énorme comme amortisseur social. Donc c'est très français. Nous sommes en social-démocratie, mais le dire, oh là là, c'est exceptionnel. Il a osé le faire. Bon, c'est, vu d'extérieur, ça peut paraître un peu désuet. Mais peu importe, c'est le rituel français, il a ses charmes, il ne faut pas en exagérer.
Jean-Louis Servan-Schreiber sur RTL en direct, journal inattendu jusqu'à 13h30. À tout de suite.
Le journal inattendu de Jean-Louis Servan-Schreiber avec Marie Drucker sur RTL.
Et on continue avec vous, Jean-Louis Servan-Schreiber sur RTL, de parler des riches, puisque c'est l'objet de votre essai « Pourquoi les riches ont gagné » chez Albin Michel. Quand François Hollande, vous vous souvenez, dit, c'était dans l'émission « À vous de juger » de France 2, il était face à Michel Alliot-Marie, il dit « Je n'aime pas les riches ». Quel écho cette phrase a-t-elle aujourd'hui pour vous ?
Oh ben, ça permet de faire des plaisanteries rétrospectives, mais c'est pas tout à fait étonnant. Quand on prend les diatribes de François Mitterrand au moment de son élection et pendant la campagne, qui c'est l'argent qui corrompt, l'argent qui est vil, enfin, c'était littérairement, c'était plus fort que « Je n'aime pas les riches ».« Je n'aime pas les riches », c'était un peu modeste, comme ça, presque, je me permets de dire ça. Ça n'a aucune importance.
Qu'est-ce qui n'a aucune importance ?
Le fait de,
d'avoir dit ça ?
Le fait de dire ça, oui. Parce que les riches s'en foutent. Ils savent très bien que c'est rituel et que c'est pas ça qui va changer la situation. C'est plus préoccupant quand il dit nous allons faire des impôts de 75% pour tous ceux qui touchent un million ou plus, parce qu'il commence à y en avoir pas mal. Et finalement, les riches ont gagné, puisque c'est l'entreprise qui doit payer les 75% et pas les individus. Mmh. Donc, sur tous les points où il y avait eu un peu des promesses que les riches ont pris pour des menaces au moment de la campagne électorale, finalement, ça ne s'est pas fait. Souvenez-vous, l'histoire des pigeons, on est revenu en arrière. C'est normal, c'est tout simplement l'expression du fait que maintenant, on ne peut pas gouverner un pays en démocratie sans composer avec ceux qui ont le pouvoir économique. Ben voilà, c'est la situation. Mais c'est pas toujours facile pour un homme politique de gauche, qui est honnête, de l'acter.
C'est ce que vous estimez être François Hollande, donc ?
Oui, bien sûr.
On va entendre une question pour vous, Jean-Louis Servan-Schreiber. L'invité de la semaine précédente interpelle l'invité du jour. La semaine dernière, puisque RTL donne la parole à tout le monde, nous recevions des sans-abri, car RTL est partenaire d'une très belle opération qui s'appelle 1000 radios. On distribue des radios aux sans-abri. Oui. Donc leur regard sur l'actualité nous intéressait beaucoup. Oui. L'un d'entre eux, Hervé, vous interroge. Écoutez.
Bonjour, Jean-Louis Servan-Schreiber, je m'appelle Hervé. Je fais partie de ce qu'on appelle les travailleurs précaires, travailleurs pauvres. Vous avez écrit un livre qui me semble qui s'appelle « Pourquoi les riches ont gagné ». Je vais vous suggérer pour le prochain un titre « Pourquoi les pauvres ont perdu ». Qu'est-ce que vous en pensez ?
Alors évidemment, « Pourquoi les riches ont gagné », en creux, dans l'esprit d'Hervé, ça veut dire que les pauvres ont perdu.
Ça veut dire que, et je comprends qu'Hervé le pense, comme 63% d'ailleurs des Français, selon un sondage d'il y a moins de 3 mois, que les inégalités s'accroissent en France. Ce n'est pas le cas, mais il y a une grosse différence entre la réalité et le ressenti. C'est comme entre la température réelle et la température ressentie. Oui. Donc je le comprends tout à fait. Simplement, de nos jours, les pauvres ne perdent pas forcément quand les riches gagnent, parce que c'est la richesse globale qui a augmenté. Mais ça se perçoit pas encore en France, parce que nous sommes dans cette situation de stagnation. Donc il a raison, mais pour autant, je pense que les pauvres n'ont pas perdu. Les pauvres, à l'échelle mondiale, sont en train de diminuer fortement, plus vite même que l'ONU ne l'avait prévu. Mais ça, c'est des statistiques. Un individu, forcément, il vit ça à l'échelle de son aventure personnelle, et je le comprends très bien.
La classe moyenne, Jean-Louis Servan-Schreiber, est-elle en train de regagner du terrain ?
La classe moyenne sera dominante, est déjà dominante, mais sera de plus en plus dominante au XXIe siècle. C'est ça le phénomène économique principal du XXIe siècle. On va vers tout le monde classe moyenne, d'une certaine manière, sauf les quelques très très, très riches dans certains pays. Mais si il y a des injustices trop manifestes dans le mode de vie des riches, ça crée une irritation inévitable, et je pense que les plus avisés d'entre eux ne rentrent pas dans ce jeu.
À vous lire, Jean-Louis Servan-Schreiber, les riches détiennent aujourd'hui tous les pouvoirs, le pouvoir médiatique aussi, soit parce qu'ils en sont propriétaires, soit par le biais de la publicité. Vous appartenez à cette catégorie, vous avez fondé des journaux, des groupes de presse que vous avez revendus. Vous faites partie, vous aussi, de ces riches
oui,
que vous
observez. Oui, je suis dans les 1%, incontestablement. Ce qui me permet de les voir un peu de l'intérieur, d'ailleurs. C'est très instructif, mais je reste quand même journaliste, en priorité.
Les riches, donc les politiques, selon vous, représentent le pouvoir aujourd'hui, mais ne le détiennent pas, puisque c'est les riches qui le détiennent.
Alors, ils ont un pouvoir symbolique très important. Et heureusement d'ailleurs, parce que nous ne pouvons pas nous passer d'avoir un exécutif. Mais regardez ce qui se passe. L'événement politique central, c'est la conférence de presse. Mais ça, c'est la confrontation entre l'exécutif, une personne, les médias représentés par ceux qui sont dans la salle et qui sont eux-mêmes porteurs de ce que l'opinion va penser dans les jours qui suivront. Et le troisième partenaire principal, c'est l'opinion. Alors les corps intermédiaires, les assemblées, les députés, ils sont un peu largués dans ce fonctionnement moderne de la société.
Vous dites que l'événement politique central, c'est la conférence de presse. L'événement central, je ne mets pas politique, même si certains ont parlé des hebdomadaires traditionnels, tournent autour, ce n'est pas la conférence de presse. Depuis 10 jours, ce qui anime les Français, puisqu'il faut être honnête, tout le monde ne parle que de ça, il suffit de voir les chiffres de vente des magazines, c'est la vie privée du président de la République.
Mais ce n'est pas un événement, c'est un épisode. C'est un épisode qui a des conséquences médiatiques croustillantes, et on ne peut pas se refuser ça quand il faut bien dire des choses à la radio et à la télévision, et dans les journaux. Mais objectivement, politiquement, ça n'a pas de conséquences. Et heureusement d'ailleurs. La conséquence, c'est ce qui s'est passé au moment de la conférence de presse.
Sauf qu'on peut dire, si, ça a des conséquences politiques, parce que si le président de la République est amoureux, et il a le droit d'être amoureux, mais dans les conditions supposées que l'on croit savoir, il n'est pas concentré. Il travaille moins. Il est ailleurs.
Écoutez, moi je ne vis pas à la place de cet homme. J'ai tendance à avoir une compassion infinie pour les politiques, parce qu'ils font un métier de chien, parce qu'ils sont en permanence soumis à des pressions, à des accidents d'actualité qu'ils sont obligés d'amortir.
Mais dans un contexte et dans un univers quand même très privilégié aussi.
Oui, mais je n'en vis vraiment pas leur mode de vie, et surtout dans une situation où, en plus de ça, il n'y a pas d'argent dans les caisses. Donc ce sont un peu des héros. Il faut pas trop les critiquer. Il faut ce qu'ils peuvent.
Vous avez toujours créé les bons médias au bon moment. On en parlait dans le journal tout à l'heure en citant Psychologie Magazine, l'Expansion en 67, l'Express avec votre frère Jean-Jacques Servan-Schreiber, aujourd'hui le magazine Clé avec votre femme Perla. C'est un talent aussi de journaliste de sentir l'air du temps et ce qui va faire les centres d'intérêt de demain.
Écoutez, c'est vous qui le dites. Moi,
c'est une question.
Ce qui m'intéresse, c'est effectivement de sentir l'air du temps, de ne pas m'attacher trop à l'événement du jour, parce qu'il a tendance à nous empêcher de voir l'essentiel, et à essayer de s'appuyer sur l'essentiel pour en faire de temps en temps des journaux.
Quelle est l'idée d'après ? Votre idée d'après ? C'est l'avenir ?
M'occuper de moi peut-être un jour, mais voilà, c'est écrire des livres, et peut-être des livres qui soient un peu moins publics.
C'est-à-dire ?
Oh ben c'est des puces de réflexion personnelle. C'est ma dimension philo là, que j'ai mentionné tout à l'heure.
Jean-Louis Servan-Schreiber, merci beaucoup. Pourquoi les riches ont gagné chez Albin Michel. Merci d'avoir été avec nous en direct sur RTL pendant une heure. Demain, je recevrai à 13h30 Alexis Grus, évidemment l'univers fabuleux du cirque. Ce sera dans Les Essentiels à 13h30 sur RTL. Et samedi prochain, 12h30 en direct, le journal inattendu de la romancière Marie Darieusec pour son livre qui est déjà sorti il y a un moment, puisqu'elle a reçu le prix Médicis. Ici, c'est le prix des prix. Il faut beaucoup aimer les hommes. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Très bon après-midi en compagnie de Sidonie Bonnec.
Vous écoutez RTL.